Eh bien, écoutez, merci à tous de nous avoir rejoints pour cette conférence qui va durer une heure et sur laquelle je vais vous présenter les intervenants. Je voudrais juste commencer par deux, trois mots d'introduction. Donc, comme vous l'avez vu, il s'agit de parler de e-santé et de Silver Economy. Donc, c'est une banalité, mais c'est bien de le rappeler que la santé est une préoccupation importante de tout un chacun. Mais, comme vous le savez, elle se renforce à deux moments de la vie. D'une part, celui de la naissance et de la petite enfance. Et d'autre part, celui du vieillissement à partir de 50 ans. À titre d'anecdote, deux chiffres identiques en 2015. Il est né 800 000 bébés en France. Et il y a 800 000 personnes qui ont fêté leurs 60 ans. Donc on pourrait imaginer que les dépenses de santé se répartissent équitablement entre ces deux pôles. Et comme vous le savez, c'est bien sûr faux, puisque 75% des dépenses de santé sont consacrées aux pathologies chroniques qui touchent particulièrement les plus de 50 ans. Donc autant l'adéquation entre santé et silver economy n'est plus à prouver, mais la question de cette table ronde, c'est qu'en est-il de la e-santé ? Aujourd'hui, les quatre gros Américains, le GAFA, sont partis billes en tête sur la e-santé, et notamment Google et Apple, comme vous le savez. Ce qui est assez logique, parce qu'il faut rappeler quelque chose qu'on n'a pas forcément toujours à l'esprit, c'est que les USA, c'est le marché santé le plus important qui soit, à la fois bien sûr en valeur, mais également aussi en volume. Parce que je vous rappelle que la santé aux USA, c'est 16% du PIB, alors qu'en France ou en Allemagne, c'est un petit peu plus de 10%. Mais la France a son mot à dire, bien évidemment, en raison de son savoir-faire en matière de silver economy et de sa grande tradition et bonne réputation du système de santé. Et pour illustrer ce propos, donc j'ai le plaisir d'accueillir quatre entreprises qui associent avec succès silver economy et e-santé. Et donc, nous avons le plaisir d'accueillir Jérôme Ducas, tout de suite à ma gauche, qui est le directeur général de Planet, qui va vous expliquer un petit peu ce qu'est Planet, pour ceux qui ne le savent pas. Hervé Meunier, qui est le DG de Filien ADMR, juste à côté. Alexandre Play, qui est le président fondateur de Human Life. Et Vincent Dupourquet, qui est le président de Compay Robotics. C'est ça. Donc ce que je vous propose, c'est que chacun se présente vraiment de manière très rapide. On va leur donner une minute à chacun. Et puis ensuite, il y aura un exposé un petit peu plus important de chacun, d'une dizaine de minutes, sur aujourd'hui comment la société se positionne sur ces deux univers qui sont la silver economy et la e-santé. Et puis si chacun respecte le délai, ce qui normalement est le cas, on aura ensuite, à la fin, une dizaine de minutes pour pouvoir vous donner la parole. Voilà, merci de votre attention. Et Jérôme, je te passe le micro. Vas-y, prends le micro.
Bonjour. Donc, je suis Jérôme Ducas. Je représente la société Planet.fr. La société Planet.fr est un groupe média indépendant qui s'est créé en 2000 sur un positionnement assez clair sur la silver economy, les plus de 50 ans. On a commencé avec un premier site qui s'appelle Planet.fr, qui est un site d'actualité généraliste. Et on a, au cours de notre activité, tant en termes de croissance interne que de croissance externe, on s'est développé sur différents secteurs, et en particulier la santé, avec le rachat en 2004 de Medisit, qui est aujourd'hui le premier site santé français.
Bonjour, je suis Hervé Meunier. Donc Filien ADMR, c'est la société, la filiale et la société de téléassistance du réseau ADMR, le premier réseau de services à la personne en France. Et notre métier, c'est la téléassistance. La téléassistance est un service de sécurité pour les personnes souhaitant rester à domicile et souhaitant être sécurisés en générant une alerte si jamais ils sont dans une situation à risque ou s'il leur arrive quelque chose. Et la particularité de Filien, c'est d'apporter une réponse non seulement sur la sécurité, mais aussi sur la solidarité, puisque nous avons une action active en matière de lutte contre l'isolement.
Bonjour à tous, je suis Alexandre Play, le fondateur de Human Life.
Human Life sans le H, ça signifie You Manage Your Life. On est une start-up, donc, comme l'évoquait Patrice, dans le domaine de la e-santé. Et on propose un coaching pour nos utilisateurs finaux. On travaille beaucoup en B2B, donc avec différents acteurs. J'en dirai peut-être un petit peu plus tout à l'heure.
Bonjour, Vincent Dupourquet, fondateur et président de la start-up Compaï Robotics, qui est une spin-off d'une société pionnière en matière de robotique de service qui était Robosoft, qui est toujours Robosoft. Nous nous intéressons tout spécialement à la robotique qui pourrait aider et qui aide les personnes fragilisées, quel que soit leur lieu de vie, et leurs aidants. Donc c'est pareil, je vais en parler un petit peu plus longuement tout à l'heure.
Merci Vincent. Il nous a paru intéressant, avant de commencer à développer les communications des différentes sociétés, d'interroger les gens qui sont concernés au premier chef. Et donc Medicite a réalisé une enquête auprès de personnes qui ont plus de 50 ans pour savoir quelle était la perception, leur perception au niveau de la e-santé. Donc enquête qui a été réalisée par Medicite et que Jérôme va pouvoir nous présenter avec une télécommande qui normalement devrait marcher.
Super. Donc juste un petit mot sur Medicite. Donc Medicite est un site de santé grand public qui réunit 4,5 millions de visiteurs uniques chaque mois. Le cœur de cible du lectorat de Medicite aujourd'hui est principalement représenté par les plus de 50 ans, avec des indices d'affinité records sur cette cible à plus de 200 par rapport au web français. Et ça nous paraissait intéressant d'interroger nos lecteurs pour avoir un thermomètre de leur perception de la e-santé. Donc je vais vous présenter les premiers résultats en avant-première. Donc c'est une étude qui a été réalisée début novembre. On a récolté un peu plus de 750 répondants pour cette étude, mixte, 50% femmes, 50% hommes, et 97% des répondants ont plus de 50 ans. La première question, c'était de leur demander comment ils se sentaient, est-ce qu'ils étaient en forme. Donc on a 2 tiers des répondants qui n'ont pas de pépins de santé. On a 19% de répondants qui souffrent de maladies chroniques et 23% qui considèrent devoir se surveiller régulièrement. À la question, les objets de santé connectés sont des dispositifs à l'écoute du corps qui enregistrent des données afin de faire un compte-rendu détaillé sur le smartphone, la tablette ou l'ordinateur. Avez-vous déjà entendu parler des objets connectés ? Donc, belle amélioration par rapport à cette enquête que nous avions menée aussi l'année dernière, qui nous permet de la suivre sous forme de baromètre, avec 69% des répondants qui ont déjà entendu parler d'objets connectés. À la question, si vous décidiez de vous équiper d'un objet santé connecté, auriez-vous besoin de conseils pour votre choix ? Là, une large majorité s'exprime aussi par le oui. 3/4 des répondants ont besoin d'être accompagnés. Alors, accompagnés par qui ? C'est la slide suivante. Le médecin est incontournable, 76% des répondants. Donc là, c'était plusieurs réponses étaient possibles. Donc en 1, clairement, le médecin est incontournable dans la relation santé-patient. Et en forte progression par rapport à l'année dernière, qui n'était qu'à 55%. Et en 2, e-santé, dit santé connectée, un site de santé sur Internet, comme Medicite, arrive pour un tiers des répondants. Donc 34% versus 18%, là aussi une grande progression en un an. À la question suivante, sur est-ce que les patients sont prêts à acquérir ces nouveaux dispositifs, là, il y a encore un petit peu du travail à faire. Moins d'un tiers se sont exprimés favorablement. Les deux dispositifs les plus appréciés aujourd'hui sont les tensiomètres ou les bracelets ou montres qui mesurent les rythmes cardiaques. Au niveau du modèle économique, là, c'est encore une. Il n'y a vraiment pas photo sur le choix. Il y a vraiment une prime à l'abonnement pour 78% des répondants contre 22% sur l'achat des dispositifs.
Juste une petite réflexion par rapport à ça. C'est intéressant parce qu'on est quand même aujourd'hui dans un marché qui est avant tout dans un marché de vente et un marché de propriété. Je ne parle pas de la téléassistance, mais je parle des objets connectés et de voir qu'effectivement l'attente des consommateurs, elle est vraiment sur des logiques d'abonnement. Phénomène qu'on voit d'ailleurs surgir dans beaucoup de secteurs, comme dans l'industrie automobile par exemple. On s'aperçoit que de plus en plus, la location prend le pas sur la pleine propriété. Et c'est intéressant de voir que la grande majorité des gens attendent des modèles économiques proposés qui sont des modèles économiques sur l'abonnement et non pas sur la propriété.
C'est une erreur sur la slide, c'est pour ça. Donc c'est bien le 78%, c'est bien l'abonnement et pas l'achat du dispositif. Il faut le préciser. Merci. Il y a une erreur de légende. La question suivante est qui doit, selon les personnes interrogées, qui doit assurer le financement de ces objets. Même ordre que l'enquête de l'année dernière. Donc en premier apparaît fortement la mutuelle ou l'assurance santé pour 54% des répondants et suivent dans un mouchoir de poche l'utilisateur et la sécurité sociale. Au niveau de la communication des données, il y a vraiment cette relation de proximité avec le médecin réapparaît aussi fortement. Les utilisateurs sont tout à fait disposés et enclins à communiquer avec son médecin. Et il n'y a vraiment pas photo par rapport au reste. C'est vraiment 84% des répondants qui répondent favorablement pour le médecin. Et que ce soit les mutuelles, que ce soit la caisse de sécurité sociale ou même le pharmacien, il n'existe pas en tout cas dans ce panorama. Au niveau de la protection des données, on voit encore une forte frilosité, c'est-à-dire que les données du patient doivent rester chez le patient. Là, deux tiers des répondants souhaitent les conserver sur l'ordinateur personnel et n'ont pas vraiment souhaité vouloir les partager, que ce soit sur un compte de la sécurité sociale, que ce soit sur un site spécialisé ou même en relation avec la mutuelle santé. Êtes-vous prêt à tenir à jour un carnet de santé sur votre ordinateur pour donner des informations aux médecins lorsque vous le soignez ? Sans surprise, on retrouve le oui à 75%, plutôt consistant avec les données vues précédemment.
C'est une question dont la réponse fait très plaisir à Alexandre Play.
Oui, je confirme.
C'est pas pour autant que ça marche.
Il existe des dispositifs aidant les personnes à rester à leur domicile, quel que soit leur âge. Seriez-vous prêt à utiliser pour vous-même ou pour votre entourage ? Donc ce désir d'autonomie est quelque chose qui revient très fortement. Et il y a un plébiscite pour ce type et en constance et une petite amélioration. Donc viennent en un très fortement vraiment tout ce qui permet de faciliter l'autonomie. Donc des dispositifs de téléassistance qui vont détecter les chutes, des objets de téléassistance tels que les médaillons, les montres, les téléphones. Des objets de téléassistance que la personne doit actionner pour prévenir le secours. Donc il y a vraiment les trois, on est vraiment dans le même, les trois premiers dans le même secteur. Ensuite, on a des produits un peu plus spécifiques qui, pour la moitié des répondants, semblent intéressants. Des robots capables d'aider la personne, d'aller même plus loin, mais d'aider la personne à se relever en cas de chute. Le pilulier électronique pour rappeler la prise des médicaments. Et le dernier élément, c'était des petits robots qui tiennent compagnie à la personne. C'est celui qui vient en dernière position, en tout cas ici, à 45%. Au niveau de l'opinion sur le développement de la e-santé pour les plus de 50 ans, on revoit encore ce désir d'autonomie. La première réponse la plus fortement plébiscitée, c'est un développement qui permettra aux personnes âgées de rester plus longtemps chez elles. Donc c'est quelque chose qui paraît essentiel pour nos internautes. Dernière slide, et je ne vous embête plus avec les chiffres. Pensez-vous que la e-santé permettra de faire des économies sur les frais de santé? Entre les oui tout à fait et les oui probablement, on retrouve encore deux tiers des répondants qui considèrent en tout cas la e-santé largement et les objets connectés en particulier pouvant faire des économies et donc apporter un vrai avantage au maintien en forme.
Merci Jérôme. Donc ce que l'on retient, c'est qu'effectivement, moi je suis surpris par les résultats de cette enquête. Je vous rappelle que l'âge moyen des répondants est 66 ans. Et on voit un véritable engouement à la fois sur l'ouverture d'esprit à utiliser les dispositifs de e-santé, mais également la foi, je dirais, dans le, même si le médecin joue un rôle important, mais la foi dans ces nouvelles technologies. Et en plus, dernière slide intéressante pour les gens qui gèrent les dépenses de santé, c'est perçu effectivement comme à la fois un vecteur d'amélioration de la santé, mais aussi un vecteur d'économie. Et alors avant de passer la parole à Hervé, sur Medisite aujourd'hui, quels sont les, puisque vous avez la chance d'avoir une audience importante, quelles sont les grandes demandes des internautes? Qu'est-ce que les internautes seniors viennent chercher comme information en matière de santé sur le site?
Donc, aujourd'hui, Medisite, la baseline, c'est devenez acteur de votre santé. Donc c'est comment je prends en main ma santé. Et le premier élément avant même de se soigner, c'est comment je me maintiens en forme le plus longtemps possible. Donc bon, sans surprise, les rubriques les plus consultées, ça reste les rubriques maladie pour se documenter. Mais on a des rubriques très très fortes comme la nutrition qui est essentielle. On a des choses aussi autour des médecines douces aussi qui marchent particulièrement. Et ce qui est assez surprenant, donc la société s'est créée d'abord à travers un site d'actualité, et l'actualité généraliste, comme on sait, est vraiment inscrite dans le quotidien. Et lorsqu'on a créé Medisite, on a créé aussi une newsletter quotidienne rattachée à ce site, et en se disant, est-ce qu'il y a la place pour une communication quotidienne autour de la santé? La fabuleuse surprise, c'est que la newsletter santé du groupe est celle qui a les plus grands rendements, et qu'il y a donc évidemment, on ne va pas parler de maladie tous les jours, mais de conseils pour se maintenir en forme, de conseils pour bien s'alimenter, et des focus, des recettes fonctionnent particulièrement bien aussi chez nous. Et aujourd'hui, les newsletters quotidiennes de Medisite sont celles qui sont les plus consommées. C'est plus de 35% taux d'ouverture tous les jours c'est une base de données de 1 700 000 abonnés chaque jour qui reçoivent une newsletter quotidienne. Donc c'est quand même quelque chose d'assez surprenant quand on le compare à d'autres sites d'actualité par exemple.
Et ben bravo Medisite, merci. Pour ceux qui souhaiteraient recevoir les résultats de l'enquête, il y a une charmante jeune femme à lunettes qui va se lever, qui s'appelle Muriel, et qui est tout à fait prête à collecter vos cartes de visite, et on vous enverra le lien pour que vous puissiez consulter cette enquête. Hervé, téléassistance, vous avez la télécommande entre les mains.
Pour faire le lien avec l'enquête qui vient d'être présentée, j'ai bien noté que vous avez vu que le premier objet qui est cité donc pour une fonction d'assistance, c'est le détecteur de chute. Et en matière de téléassistance, c'est vrai que le principal facteur d'achat est relatif à la chute. Alors aujourd'hui, compte tenu de l'âge et des habitudes des clients, on est sur des clients qui, en général, attendent en fait d'avoir fait leur première chute, de s'être fait mal, et là de se dire il faut que je fasse quelque chose. La culture de la prévention n'est pas encore très diffusée, et donc c'est après la première chute que les gens très souvent déclenchent l'acquisition d'un système de téléassistance. Et c'est pour ça que chez Filien, on a voulu aller beaucoup plus loin que la simple réponse à un besoin tel qu'il était exprimé, mais d'aider aussi nos clients non seulement à pouvoir très tôt identifier des fragilités de façon à pouvoir mieux se protéger quand ils sont à domicile, et notamment par l'association de la téléassistance avec des technologies d'automatisation du domicile. On appelle ça aussi la domotique. Ce qui nous a amené à construire une solution qui s'appelle Filia Habitat, qui permet d'automatiser la détection de situations à risque et de prévenir véritablement les chutes à domicile. C'est un système qui détecte les inactivités et après une période d'inactivité qui sera jugée anormale, va immédiatement générer une alerte. Et c'est aussi un système qui va la nuit éclairer automatiquement le domicile, notamment sur le parcours qui va de la chambre jusqu'aux toilettes, de façon à éviter les chutes. Et je dis bien éviter les chutes parce que les tests que l'on a fait préalablement au lancement de cette offre nous a permis de voir que ça nous permettait d'éviter 30% des chutes nocturnes, étant entendu que l'ensemble des chutes que la personne vit à domicile, dans 40% des cas, interviennent la nuit. L'autre point qui nous a semblé important chez Filien, c'est d'avoir une approche globale des besoins de la personne à domicile. C'est-à-dire que la santé, ce n'est pas que un bobo suite, alors je dis un bobo sachant que des fois ça peut être avec un grand B suite à une chute, ça peut aussi être un bobo à l'âme. Parce que quand on est âgé, et bien souvent on se retrouve seul. Seul à domicile, son conjoint peut déjà être parti, la famille est éloignée et on a voulu aussi prendre en compte ces situations d'isolement des personnes. Et c'est pour cela que nos abonnés ont la possibilité de nous appeler, quelle qu'en soit la raison, ne serait-ce que juste pour bavarder. Et c'est quelque chose qui est très important chez nous, puisque ça représente un petit peu plus de 70% des cas d'utilisation de la téléassistance Filien. Dans un petit peu plus de 70% des cas, les personnes souhaitent bavarder parce qu'elles sont isolées. Pour faire un focus sur la e-santé et sur les technologies, ce qui est extrêmement enthousiasmant aujourd'hui dans le domaine de la silver economy, c'est l'émergence des startups, c'est l'arrivée de nouvelles technologies qui nous a amené à créer chez Filien un service innovation et innovation de service. Notre métier, fondamentalement, c'est d'être capable d'intégrer des matériels, d'intégrer des nouvelles technologies pour pouvoir concevoir des services qui apportent une valeur ajoutée tangible aux personnes vivant à domicile. Donc c'est l'exemple de Filien Habitat que vous voyez là actuellement sur l'écran, ou d'autres solutions comme des téléassistances mobiles géolocalisées. Pourquoi la téléassistance mobile ? Parce qu'une personne qui vit à domicile, et le corps médical est unanime sur ce point-là, bien vivre à domicile, garder son autonomie, c'est savoir en sortir de son domicile. C'est être capable de continuer à aller se promener, faire ses courses, aller chercher son pain, continuer à avoir une vie sociale en allant voir ses amis ou en allant au club. Et ce qui est terrible, ce serait d'avoir une bonne protection à domicile et dès lors que l'on sort du domicile, alors même que les situations de fragilité sont bien plus importantes à l'extérieur, on peut se faire renverser par une voiture, on peut glisser sur la chaussée, eh bien, ce qui serait terrible, c'est d'être protégé à domicile et dès lors que l'on sort, ne plus être protégé. Et là aussi, on a voulu trouver une solution. Et là, c'est grâce aux technologies qui émergent sur le marché que l'on a évalué, que l'on a réussi à intégrer dans des solutions qui sont compactes et qui apportent ce service. Je crois que la technologie, pour qu'elle serve véritablement les besoins des seniors, eh bien, il faut qu'elle soit transparente pour les seniors. On ne peut pas demander à un senior qui n'a pas été habitué à utiliser ces technologies d'avoir à faire elle-même des réglages, la configuration de son système. Et à partir du moment où l'intégration est bien réalisée, parce que le système est compact et la technologie est utilisée automatiquement, là on est sur une vraie valeur ajoutée avec un service apporté à la personne pour son bien-vivre à domicile.
J'avais une question, Hervé. Merci pour toute cette explication. La prise de décision, elle intervient comment ? C'est-à-dire que Vous nous avez dit que la prise de décision était liée à la chute, hein, puisqu'on n'était pas, sur une commercialisation liée à la prévention, mais plutôt liée au premier problème. Donc j'ai deux questions. La première question, c'est la prise de décision, par qui est-elle prise ? Est-ce qu'elle est prise par la personne ? Est-ce qu'elle est prise par son entourage ? Et si son entourage, quelle composante de l'entourage ? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est sur la prise en charge financière. Est-ce qu'elle est prise, est-ce que la prise en charge financière est prise par la personne directement ou par son entourage ?
Ce sont effectivement deux bonnes questions que se posent systématiquement nos abonnés. Alors, concernant la prise de décision, il faut reconnaître que encore aujourd'hui, dès lors qu'on utilise le terme téléassistance, eh bien, dans la compréhension de tout à chacun, téléassistance égale âge, égale dépendance, égale repoussoir. C'est effectivement un vrai obstacle auquel on doit faire face, d'où l'intérêt de pouvoir, et c'est tous les téléassisteurs ont cette approche, de pouvoir nommer le service en gommant le mot de téléassistance lui-même. Et la prise de décision, d'ailleurs, on constate qu'elle a progressivement migré vers la famille. Et la famille, que ce soit les enfants ou les petits-enfants. Aujourd'hui, chez Filien, eh bien, 75% des décisions d'achat sont prises par la famille. Et c'est donc aussi bien pour se dire qu'on va protéger ses parents, donc la pensée étant de sécuriser ses parents, mais c'est aussi pour la famille se sécuriser soi-même. Au moins, on sait qu'avec ce système de téléassistance, s'il y a une situation à risque, s'il y a un problème qui intervient, eh bien, la personne vivant seule à domicile aura la possibilité de déclencher cette alerte.
Et alors, qui paye ?
Alors, la deuxième question, effectivement, c'était sur la prise en charge. Alors, l'enquête le montre bien. Dans la plupart des cas, les personnes attendent une prise en charge de la part donc de mutuelle, de la part d'assurance. Et je suis à peine provocant quand je dirais que dans l'esprit des gens, la téléassistance, puisque c'est un système qui vise à la préservation de l'autonomie dès lors qu'on est fragile ou âgé, eh bien, l'âge étant considéré comme une maladie, elle doit être remboursée par la sécurité sociale. Je caricature à peine parce que dans beaucoup d'esprits et dans beaucoup de questions qu'on nous pose, eh bien, il y a en sous-jacent l'identification de l'âge à la maladie. Et je trouve que c'est dommage aujourd'hui, alors que l'on peut vieillir en bonne santé de façon... On peut vieillir en bonne santé aujourd'hui. Et les prises en charge existent, elles sont nombreuses, que ce soit de la part des conseils départementaux avec l'allocation APA, de la part des CARSAT. Beaucoup de nos abonnés sont aussi adhérents à des mutuelles qui proposent des tarifs dégressifs ou des prises en charge de la téléassistance, de sorte à ce que le reste à charge soit le plus faible possible.
Mais est-ce que cette notion de reste à charge, c'est une notion véritablement financière et de revenus pour les familles, ou est-ce que ça reste un problème, on va dire, psychologique qui va s'estomper petit à petit avec l'arrivée des boomers ? Avec l'arrivée des baby boomers, qui sont eux plutôt habitués à payer quand même pour des prestations et qui sont moins, entre guillemets, portés par l'action sociale que les aînés actuels.
On voit effectivement une vraie différence. Et avec les boomers, ce que l'on voit surtout et qui change beaucoup les choses, c'est une vraie sensibilisation à la prévention. Et les boomers se disent « vieillir en bonne santé, je le veux. Et je vais prendre les dispositions pour cela ». Et donc s'équiper au moment de la prévention, eh bien, c'est aussi accepter de prendre en charge soi-même le financement de la téléassistance. Et ce que l'on constate aujourd'hui, notamment avec notre solution d'aménagement de l'habitat, c'est que les gens s'équipent et acceptent parfaitement d'en supporter le prix au titre de la prévention et de la préservation de leur capital santé.
Merci Hervé. On va passer à la prévention. La prévention, la vraie.
J'allais dire, la vraie, je ne sais pas, mais j'allais dire la transition est toute trouvée, puisque sans le savoir, on est un acteur de la prévention, et je dirais sans le savoir, puisque je me représente un peu rapidement. Moi, j'ai travaillé pendant près de 10 ans dans un groupe de cliniques privées, et il m'a semblé pertinent à un moment donné, partant du constat que chacun d'entre nous gère ses finances, ses voyages et ses amis avec un support magnifique et Internet, très peu d'entre nous ne se préoccupent de son bien le plus précieux, qui est sa santé. Et c'est comme ça que j'ai décidé de lancer Human Life, qui est un tableau de bord de santé, donc qu'on a affiché là comme étant plutôt un coach personnel. Mais je dirais très clairement, sans le savoir, on est devenu un acteur de la prévention, avec les problématiques évoquées par Hervé et Patrice sur le financement de cette prévention. C'est qu'on est très peu d'entre nous prêts à financer ce type de service. Mais aujourd'hui, pour faire simple, Human Life, c'est vraiment un coach qui vous accompagne sur différents domaines, le sommeil, la nutrition, l'activité physique. On a gardé gérer sa grossesse, puisqu'on le propose aussi. On va même plus loin, puisqu'on propose un carnet vétérinaire pour l'animal de compagnie. Et c'est entre autres dans ces aspects-là que la dimension Silver Economy devient particulièrement intéressante pour nous. On a, et ça je le dis parce que c'est important, dans cette dimension d'accompagnement, évidemment ça se fait au travers d'un outil numérique, le smartphone, mais aussi la plateforme web, pour proposer des petits conseils et des recommandations de bonnes pratiques à nos utilisateurs. Une grande partie de notre activité aujourd'hui se fait en B2B. Je pense qu'on aurait clairement des choses à faire avec Filien, on en parlera avec Hervé tout à l'heure. Mais très clairement, sur cette problématique de financement, on se rend bien compte que le grand public, même si l'enquête le dit, on se rend bien compte que le grand public n'est pas encore tout à fait prêt aujourd'hui à financer des services d'accompagnement. Autant la téléassistance, je pense que c'est un service aujourd'hui très connu et qui apporte une vraie valeur d'usage, la notion de prévention au quotidien, elle commence à venir, mais on n'est pas encore sur un marché très, très fort. C'est un marché qui se développe. Je pense que là, on partagera tous ce constat-là. Ce qui est important de dire pour nous, c'est que non seulement on travaille dans les règles de bonne pratique, et notamment avec un comité d'éthique, avec des professionnels de santé qui valident tout ce que nous faisons, et on a un partenariat, alors il est en première position, et c'est pas du tout volontaire, mais avec un partenariat fort avec Medicit, parce que typiquement, nous ne sommes pas producteurs de contenu et nous n'avons absolument pas aujourd'hui prétention de proposer tel ou tel contenu ou tel conseil mieux qu'un autre. Et c'est pour ça qu'on s'appuie sur des gens dont c'est le métier et qui le font très bien. Je vais terminer rapidement sur quelques exemples de notre activité, ce qu'on appelle nous en B2B, donc avec différentes catégories d'acteurs qui sont des grands acteurs, puisque le premier est connu de certains d'entre vous, s'appelle Humanis. Ensuite, on travaille avec des acteurs comme Carrefour, comme Sodexo, ou comme un groupe de cliniques privées qui est assez gros, qui s'appelle Elsan. Je suis un ancien de Général de Santé, hein, donc on ne travaille pas encore avec eux, mais je le précise. Sur des valeurs d'usage, la partie la plus à droite, c'est une application de suivi de grossesse, où on apporte une valeur d'usage aux futures mamans, en lien avec leur établissement. La seconde, si on va de la droite vers la gauche, on est sur du conseil nutritionnel, avec comme valeur d'usage d'éviter d'avoir au maximum à saisir ce type d'informations. Ensuite, on est sur de l'activité physique dans la grande distribution. Et si on arrive à la plateforme santé en format web aujourd'hui, on est complètement dans de l'accompagnement et du coaching autour des trois domaines d'activité que sont le sommeil, la nutrition et l'activité physique. J'en terminerai là, sauf si Patrice a des petites questions pour moi.
Oui, bien sûr, j'ai des petites questions. Alexandre, donc tu es dans une logique de développement d'entreprise, une entreprise, je dirais, moins assise que celle d'Hervé qui existe depuis 30 ans, non, à peu près ?
28 ans, c'est ça ? 3 ans,
ouais. 28 ans ?
28 ans.
Donc, tu nous as dit qu'effectivement, aujourd'hui, en tous les cas, c'était compliqué d'attendre un financement de la part des individus, des consommateurs. Donc, comment est-ce que tu te situes dans le développement économique de Human Life dans les années qui viennent, les mois et les années qui viennent?
J'ai clairement pas du tout manqué d'ambition, et c'est toujours le cas aujourd'hui, hein. On croit très certainement à un financement en direct par l'utilisateur, Mais aujourd'hui, on est, je dirais, dans une obligation, mais pour le bien aussi et pour la pérennité de cette start-up qui est Human Life, on travaille avec des acteurs dont c'est le métier et qui, eux, ont déjà aujourd'hui le contact des utilisateurs finaux. Donc c'est pour ça que je prenais ces exemples aussi bien dans la grande distribution que dans l'assurance, que dans l'assistance, que dans des métiers de courtage.
Donc comme un service apporté à un acteur du marché vis-à-vis de ses clients, de ses usagers.
On est toujours en fait, c'est peut-être un peu barbare comme terme, mais on est toujours en B2B2C. Sachant que le B chez nous, c'est celui qui finance, mais c'est toujours l'utilisateur final qui accède à notre service.
Et alors, est-ce que tu commences à avoir un recul sur l'utilisation donc des services qui sont proposés? Quels sont ceux qui sont, même question un peu qu'à Jérôme tout à l'heure, c'est-à-dire quels sont les services qui sont les plus appréciés? Est-ce qu'il y a une hiérarchie assez forte entre les différentes choses?
Aujourd'hui, très clairement, c'est pour ça que ça m'a fait plaisir l'enquête qui était présentée. Je suis ravi d'entendre que la majorité, alors sur la cible de 66 ans d'âge moyen, si j'ai bien retenu,
absolument.
Ils souhaiteraient tous utiliser ou avoir un carnet de santé. Dans les faits, malheureusement, en tout cas chez nous, ça ne se vérifie pas beaucoup. J'ai cru très clairement quand j'ai lancé Human Life il y a 4 ans que tout le monde allait à un moment donné être content de pouvoir recevoir des conseils autour de l'hygiène de vie et notamment ayant un impact sur sa santé en utilisant le carnet de santé. Dans les faits, c'est malheureusement encore aujourd'hui assez peu utilisé parce que c'est dû aussi très certainement au comportement, je dirais, des Français, mais la santé dans l'esprit des gens est un peu gratuite et il y a une dimension anxiogène. Donc si c'est pour vous donner une mauvaise nouvelle, on préfère que ce soit quelque part votre praticien, votre médecin traitant qui vous la donne, plutôt qu'un smartphone ou un outil numérique qui vous oriente vers ça. Et c'est pour ça que notre positionnement n'est pas du tout celui-là. Mais le carnet vétérinaire fonctionne très bien, le suivi de grossesse fonctionne très bien, le suivi nutritionnel et l'activité physique aussi. On a une dimension agrégateur d'objets connectés, on n'en a pas trop parlé là, mais Vincent, bon, alors c'est pas objet connecté, mais c'est plus sur un robot. Mais voilà, c'est indiscutable que progressivement, les objets connectés vont entrer dans notre quotidien. On est au balbutiement depuis quelques années, mais voilà, on peut quand même très clairement imaginer qu'une partie des données seront fournies directement par des objets. Alors, on les appelle objets connectés, moi j'appelle ça plutôt des données environnementales, mais on aura un peu plus d'informations autour de ça, je pense.
Qui pourront nourrir automatiquement le carnet de santé.
Et apporter une valeur d'usage à l'utilisateur sans forcément que celui-ci ait de la donnée à saisir, ce qui est quelque chose d'assez fastidieux aujourd'hui.
Donc ce que tu dis, c'est qu'aujourd'hui, le succès, ce n'est pas un problème de finalité en soi, et on l'a vu dans l'enquête, mais ça demande effectivement un certain exercice que les consommateurs sont pas forcément sont un peu feignants comme tout le monde et
ils font un peu
pas forcément leur tableau de bord très bien. Quoi.
C'est ça, il faut un peu une évolution des mentalités, puis charge à nous aussi d'apporter quelque chose qui a une vraie valeur ajoutée.
Absolument. Merci Alexandre.
Merci à vous.
Là, on passe dans le non pas dans le futur.
Ah ouais, merci.
Mais on passe par le. On passe par une aventure qui est celle de Compaï que va nous raconter Vincent. Compaï qui est un robot sympathique et qui est né dans les laboratoires il y a quoi? Il y a 3 ans, il y a 4 ans, 5 ans?
Oui, 6 ans.
6 ans, voilà. Et dont on commence à voir les spécimens arborer certains établissements spécialisés et qu'on va voir partout en France à partir de 2017, 2018
On commence à le voir les prédéploiements en 2017, mais on a déjà fait des petits déploiements dans les années précédentes. Hein.
Donc, à toi de nous expliquer.
Ok, je vais vous parler. Excusez-moi, je me mets debout, c'est plus pratique pour regarder en même temps. Voilà l'allure qu'a un robot, c'est le robot Compaï 2. Et je commencerai par quelques chiffres que tout le monde connaît, mais que j'ai envie de répéter parce que c'est les fondements quand même de notre démarche. La population de personnes dépendantes va tripler d'ici 2050. C'est une chose finalement qui est mathématique. Aujourd'hui, on a 4 travailleurs actifs pour un retraité. On va en avoir que 3 dans 10 ans. Et en fait, ce que nous dit l'OCDE, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est que quand la population de seniors aura doublé, la population d'aidants professionnels n'aura augmenté que de 7%. Et ça pose des vraies, vraies questions. On n'arrivera pas à fournir suffisamment de jobs d'assistants. Et la robotique pourrait, comme elle l'a fait dans le monde industriel il y a presque une... Enfin, pas tout à fait 100 ans, mais pas loin, les aider à mener des tâches à faible valeur ajoutée, à condition que leur métier soit complètement repensé, que les processus soient réinventés et que le métier d'aide-soignant évolue grâce à cette technologie. Alors nous, ce qu'on propose, c'est des solutions à base de robotique qui ciblent les personnes dépendantes, donc les personnes qui ont besoin de quelqu'un dans leur vie quotidienne pour faire des choses, et également d'aider les aidants familiaux et les aidants professionnels. Où ça ? À domicile et en institution. Et comment ? Avec des robots qui apportent des compensations aux différentes pertes d'autonomie. Alors, je vais essayer de détailler. Donc, ça a commencé en 2009, le premier que l'on a vu. Maintenant, on est en 2016. Il a évolué, mais esthétiquement, pas considérablement. Je vais expliquer comment. Tout ça parce que l'esthétique a été conçue avec des focus group et des professionnels pour faire des robots qui ne soient pas des robots gesticuleurs ou des robots trop humanoïdes ou des robots trop animaloïdes. Il faut que ça reste un objet avec une dimension affective et que ce soit à peu près discret. Et comme toutes ces technologies, le jour où les utilisateurs ne voient plus le robot mais voient la fonction que fait le robot, on a gagné. Donc, il ne faut pas qu'il soit trop voyant. Je vais faire un petit... On parle beaucoup dans des robots, donc un tout petit peu de pédagogie dans le monde de la robotique. Les robots d'assistance se classent en assistance cognitive ou en assistance physique. Dans l'assistance physique, vous avez les exosquelettes, mais l'usage de l'exosquelette à domicile n'est pas idéal. Vous avez des petits robots qui vous suivent en portant des objets. Vous avez en bas des robots qu'on pose sur la table qui sont des espèces d'assistants fixes. Vous avez les robots de téléprésence qui ne sont pas des robots autonomes, qui sont des robots télécommandés mais qui permettent de la communication à distance. Vous avez en bas à droite les robots que j'appelle interactifs, c'est-à-dire qui bougent et qui ont beaucoup de dimensions émotionnelles mais qui n'apportent aucune aide physique. Et donc en haut à droite, vous avez les robots dits physique, ceux avec des bras qui manipulent des objets et ceux avec des moyens de préhension sur lesquels les gens peuvent s'appuyer parce qu'on est parti du principe que le robot au quotidien, c'est bien qu'il amène de l'assistance cognitive, qu'il rappelle de faire des courses, mais c'est bien qu'il permette aux gens de se lever et d'aller aux toilettes ou d'aller dans la salle à manger tout seul sans avoir besoin de l'aide de quelqu'un. Donc des robots préhensibles. Bon, je ne sais pas si je peux le faire démarrer. Non, bah tant pis. Il y avait une vidéo qui est une petite. On voyait l'utilisation des barres pour se lever et pour avancer, mais vous auriez compris très bien. Le robot a ceci de spécial que c'est un objet un peu universel qui permet des tas de fonctions. Nous, on dit le 5 en 1, mais un robot, il contribue à la sécurité de la personne à domicile grâce à la téléprésence et grâce à la gestion du risque. Il contribue au parcours de santé en rappelant les médicaments, en prenant des constantes, en les transmettant vers les modèles prédictifs de santé. Il contribue à la stimulation cognitive, qu'elle soit pour se détendre ou à des fins médicales. Il contribue à l'autonomie physique et contribue à faire de l'exercice physique parce qu'il permet de rester moins longtemps en fauteuil. Et bien sûr, il contribue beaucoup au lien social. Donc dedans, il y a des tas de fonctions qui existent partout, mais le robot permet de les regrouper. Je pense que c'est l'une de ses forces. Là, je vais vous décrire comment on met en œuvre des robots, parce qu'il ne s'agit pas de mettre un robot tout seul chez quelqu'un. Il s'agit de s'intégrer dans l'écosystème. Donc, en gros, il y a les plateformes de téléassistance, il y a les plateformes de santé et il y a les plateformes de coordination. Pour notre déploiement de 2017, on a dû remplir ces cases avec des professionnels pour les convaincre tous de participer à cette expérience. Donc la plateforme de coordination, vous connaissez, c'est le réseau social des personnes qui encadrent la personne à domicile. Nos partenariats, on a trouvé des pionniers pour nous aider à monter ces premières expérimentations dans le milieu médical. ACFA, qui détient la moitié des hôpitaux dans le monde, Corian, qui est une chaîne de maisons de retraite dans lequel on va faire un prédéploiement. Nous sommes accompagnés de deux assurances, Intérial et Maïf, chez lesquelles nous recrutons des résidents. Intermutuelle Assistance va jouer le rôle de la plateforme de téléassistance, et Domicalis, une start-up bordelaise, pardon, qui est le réseau de coordination. C'est ACFA dont j'avais parlé, qui est la partie santé. Donc tous ces gens-là sont absolument nécessaires pour mettre en œuvre un robot. Je veux dire, le robot ne marchera que si tous les acteurs de l'écosystème sont motivés et l'acceptent et y trouvent une valeur. Nous, notre modèle, c'est de vendre des robots et de vendre des systèmes d'utilisation des robots à travers Internet, ces différents fournisseurs de services utilisant nos réseaux Internet et nos fonctions Internet pour opérer. Voilà, et je finirai en disant, donc je ne passerai pas à travers le calcul, mais aujourd'hui, notre estimation fait que les premières générations de robots B2B2C, comme tu dis, parce qu'on dit la même chose, représente à peu près 10 millions de robots possibles aujourd'hui dans le monde, dont 5 millions en Europe. Et nous, on va essayer de commencer à en vendre en France tout à fait logiquement.
Voilà. Merci Vincent. Et en plus, le timing est parfaitement respecté. Formidable. Si on veut voir Compagne, on peut le voir où ?
Alors aujourd'hui, notre politique aujourd'hui est de faire des expérimentations et des prédéploiements dans des endroits divers et variés. Donc vous pouvez le voir avec, vous êtes tous les bienvenus à Bidart, à côté de Biarritz, dans notre labo. Et après, on fait des expérimentations plus ou moins longues, plus ou moins itinérantes. Là, par exemple, début 2007, on va le déployer chez des adhérents d'Intérial en région parisienne. On a une expérimentation avec CARSAT à Montpellier et avec Approche à Paimbron. Voilà, il bouge au pluriel.
Et alors, même question que précédemment. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez un recul suffisant pour savoir un petit peu quelles sont les dimensions du robot, les utilisations qui semblent être préférées par les utilisateurs ?
L'intérêt d'un robot, c'est qu'on peut faire des milliers de choses, et la difficulté, c'est de trouver lesquelles. Donc, avec les partenariats que nous avons montés, ils ont eux-mêmes élaboré des scénarios d'usage qui faisait du sens au plan économique et au plan opérationnel. Par exemple, dans les maisons de retraite, des robots d'assistance à la mobilité des résidents entre leur chambre et les zones communes, que ce soit le restaurant ou les salles d'animation, ils pourraient y aller par eux-mêmes, guidés par le robot, plutôt qu'en fauteuil roulant poussé par des aidants. Voilà, il y a une dimension économique et une dimension physique qui est très forte pour les résidents. Le deuxième, toujours en institution, le deuxième cas d'usage, c'est le robot qui surveille les parties communes la nuit pour les gens qui sortent de leur chambre et qui déambulent, pour aider le personnel, pour alléger le travail de nuit du personnel. Il y en a un troisième qui est la distraction individuelle et collective, alors qu'à domicile, on travaille sur deux sujets. Le sujet du coaching physique, c'est-à-dire que le robot permette de l'entretien physique à travers des programmes prédéfinis par des coachs. L'idée, c'est que c'est l'assureur qui paye, qui fournit ça à ces personnes à domicile. C'est mis en œuvre par l'assisteur ou le téléassisteur. Et en fait, il s'y retrouve dedans parce qu'il réduit les temps de transfert et les temps passés par ses coachs. Voilà des exemples. fort et à domicile. Donc le dernier scénario à domicile, c'est la surveillance de retour d'hospitalisation. Les gens qui veulent rentrer chez eux plutôt que d'aller dans des maisons intermédiaires. Il y a moyen de mettre en place un système de suivi plus poussé avec un robot qui est disponible 24 heures sur 24 sous forme de questionnaires, de prise de constante, de renvoi d'informations.
Dernière petite question, parce qu'on est quand même dans un univers de business et on est là pour parler aussi gros sous ou petits sous. Donc Alexandre nous a dit que c'était compliqué de demander de l'argent aux consommateurs dans une démarche de prévention santé. Hervé nous a dit qu'il avait de grands espoirs pour demain, mais que pour aujourd'hui, les gens aimaient bien quand même qu'il y ait une participation des collectivités locales à l'abonnement. Là, on parle d'un produit, je ne parle pas de l'aspect institution, mais je parle de l'aspect au domicile, dont on sait tous que c'est le grand marché de demain. Ça va être compliqué quand même de vendre un robot à une famille.
D'abord, il ne faut pas négliger le marché de l'institution. C'est à peu près 40-50 000 robots en France potentiels. Et là, le modèle économique, il est évident, c'est de l'investissement et du retour sur investissement. Donc il suffit que ça marche conformément à la demande. Ils ont des lignes d'investissement, ils achètent, il y a du récurrent parce qu'ils utilisent, il y a de la maintenance, etc. Donc je veux dire, on n'est pas loin de ce business. C'est finalement techniquement qu'on n'est pas tout à fait prêt encore, mais le business est prêt. Alors à domicile, c'est peut-être un petit peu plus compliqué parce qu'il va falloir sensiblement réduire les coûts, mais la multiplicité des fonctions du robot à domicile permet d'envisager une forme d'ingénierie financière intéressante, bon, qui vient des assurances, qui vient de l'APA, mais qui peut aussi venir de la sécurité sociale. On est en train de travailler sur le statut de dispositif médical pour démontrer qu'un certain nombre de fonctions ont un rôle thérapeutique. Alors c'est de la longue haleine, mais c'est d'ici 18 mois, 2 ans. Et en fait, cette espèce d'ingénierie financière permettrait que le système finance le robot et que chacun gagne de l'argent, même si, bien sûr, les particuliers devront mettre aussi un peu la main à la poche parce qu'il faut de la responsabilité.
Mais on sera plus sur un système de location que sur un système d'acquisition, j'imagine.
Je ne vois absolument pas, enfin pour ce que vous disiez tout à l'heure, on vieillit, la téléassistance ça nous est dû. Non, c'est nos assurances qui paieront, mais je veux dire on paye des assurances pour ça. Donc, mais on ne payera pas directement, sauf certaines personnes qui pourront le faire. Hein. Mais personne, moi je ne vois personne acheter des robots, je vois des boîtes de téléassistance achetant des flottes de robots et les dispatchant chez leurs clients sous forme d'abonnement financé par leurs assureurs ou que sais-je.
Bon, on va vous laisser signer les contrats alors entre vous. Écoutez, on a tenu à peu près le timing. Il reste 5 bonnes minutes. Donc, si vous avez des questions à poser à chacun de... Vous pouvez poser des questions collectivement. Et je suis sûr qu'ils seront ravis aussi de répondre à vos questions individuelles si vous avez des choses plus personnelles à poser à l'un des intervenants. Qui se lance ? Qui pose la première question ? Je suis désolé, j'ai pas de récompense pour celui qui pose la première question, mais il en mérite toujours une. Alors je ne sais pas si on a... Attendez, il y a un micro qui arrive. Parce que comme l'environnement est bruyant quand même...
Oui, merci. Bonjour, je pose une question collective, navrée si elle est un peu abrupte. Je voulais savoir si dans l'engouement qu'il y a sur la e-santé, il y a un principe de précaution ou une crainte de voir un jour des analyses médicales, ou je ne sais pas comment on les qualifie, qui qualifieraient les ondes Wi-Fi comme étant néfastes. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez intégré dans votre développement ? Est-ce que c'est une crainte que vous avez ? Ou est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous êtes totalement serein ?
Excusez-moi, j'ai pas très bien compris votre question.
Si un jour on découvre que les ondes Wi-Fi sont dangereuses,
oui.
Est-ce que c'est quelque chose que vous avez intégré comme risque, comme principe de précaution ? Comment vous vous positionnez par rapport à... Voilà, aujourd'hui, un engouement certain et légitime, hein, qui n'est pas d'ambiguïté, oui, dans mon propos sur la e-santé, qui fonctionne principalement sur des questions d'ondes. Est-ce que vous avez intégré dans vos, d'accord, développements le risque potentiel qu'un jour on considère ces ondes comme étant dangereuses?
Alors moi je laisserai répondre qui veut, mais je veux dire,
non,
pour moi il y a deux questions différentes. Enfin, il n'y a pas deux questions différentes, pardon. Il y a aujourd'hui le fait de voir apparaître un certain nombre de développements et de services qui font du sens.
Bien sûr.
Ça, c'est acquis. Après, est-ce que la réflexion que vous faites, c'est par rapport au mode de transmission des informations. Oui. J'ai envie de dire que l'homme est assez intelligent pour, si effectivement une nocivité est prouvée, on trouvera un autre système pour transmettre les informations. Mais ça n'engage que moi.
Je vais faire un parallèle. Si on devait découvrir un jour que les ondes Wi-Fi sont néfastes, je crois qu'on peut faire confiance aux équipementiers et aux industriels pour imaginer un système qui ne soit pas nocif pour la santé, parce que tout ce que l'on a décrit ici, c'est sur la base d'équipements que l'on intègre, sur lequel on ajoute des services et in fine pour apporter des services à l'utilisateur. Je voudrais faire le parallèle avec une mutation technologique qui a lieu aujourd'hui et qui touche de plein fouet le monde de la téléassistance, c'est la décision des opérateurs téléphoniques d'abandonner le réseau filaire cuivre, donc réseau RTC. Donc c'est une décision qui est prise. La mutation démarrera dès 2018. 2018, c'est dans 2 ans. Et plus aucune nouvelle ligne téléphonique ne sera en RTC dès 2018 et sera remplacée par la technologie IP. Ça touche de plein fouet la téléassistance parce que les transmetteurs de téléassistance sont branchés sur le réseau téléphonique. Eh bien, d'ores et déjà, alors que cette annonce a été faite en 2016, eh bien, il y a déjà des fabricants d'équipements de téléassistance qui ont compris cette urgence et qui nous proposent, à nous opérateurs de téléassistance, des équipements qui fonctionnent sur le réseau IP. Donc je crois qu'on peut avoir confiance, et si à un moment il doit y avoir un risque clairement identifié, eh bien, il y aura une solution qui existera.
Je peux faire un petit juste un complément à votre réponse. C'est une question intéressante. On l'a abordée d'une manière un tout petit peu différente. Nous, on s'est posé la question de savoir que devient notre robot quand il n'y a plus Internet et donc quand il n'y a plus le Wi-Fi. Et en fait, on a fait une réponse mitigée en disant finalement, il fonctionnera en mode dégradé. C'est-à-dire que notre produit, si le Wi-Fi devait disparaître, ne fonctionnerait bien entendu pas aussi bien que s'il avait des liaisons Internet, mais il pourrait faire un certain nombre de choses quand même. Donc, mais c'est pas dans l'optique de la dangerosité du Wi-Fi, c'est dans l'optique qu'il n'y en a pas. Après, il y aura la 4G, la 5G et tout ça qui sont peut-être aussi nocifs, mais nous, on conçoit des appareils qui peuvent éventuellement s'en passer, mais dégradé après.
Autre question ?
Moi, j'avais une question à propos du robot là, sur les retours d'hospitalisation, en fait. Qui finance ? Est-ce que c'est dans le cadre de PARPA ? Et quid du modèle économique si derrière... Bah, il n'y a pas d'organisme qui finance. Est-ce qu'il y a un modèle économique derrière le retour, le robot au domicile des patients dans le retour à l'hospitalisation, en fait?
J'ai absolument pas toutes les réponses à ce jour. Notre raisonnement est le suivant. On vise un prix de robot pour le domicile équivalent au prix d'un lit médicalisé, à 4-5 000 euros. Aujourd'hui, les pompes à insuline, les lits médicalisés, etc., etc., ont des modèles économiques et des financements. Donc demain, le robot, s'il démontre sa valeur à la fois sur le plan médical, sur le plan médico-social, équivaut le prix d'un lit d'hôpital, le modèle économique, il ne sera pas très loin du fauteuil électrique ou du lit d'hôpital. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, puisque ce n'est pas encore rentré dans la ligne. Mais demain, ça va se banaliser, puis ça va rentrer dans le... Enfin, nous, c'est notre avis.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes dans une logique d'exemple héroïste, en gros, et que derrière, vous voulez pousser ça pour que les parties prenantes dans l'écosystème viennent financer le sujet. Mais vous n'avez pas de go aujourd'hui sur le financement d'un robot au domicile des personnes, de toutes ces parties prenantes.
Disons que les partenaires que j'ai montrés quand IMA, Maïf, Interial s'impliquent, c'est que quelque part, ils sont prêts dans l'avenir à financer des robots à domicile. Maintenant, les modalités, les prix, les avantages doivent être démontrés. C'est la période de 2 ans que nous avons devant nous avec eux pour affiner ça, sachant qu'ils ont la conviction que... Mais effectivement, ça peut tomber à l'eau. Et demain, si c'est démontré, alors le modèle économique se trouvera assez facilement, parce que n'oublions pas que la dépendance, c'est quand même 44 milliards d'euros par an en France. Donc si vous voulez, on peut, en en prenant un petit milliard, on peut faire beaucoup de robots.
Merci.
Autre question ? Allez-y. On va vous faire parvenir le micro. Parce que sinon, on aura du mal à vous entendre.
Bonjour. Donc, monsieur Dupourquet, vous disiez tout à l'heure que... Oui, allô ? Allô ? Oui. Donc, vous disiez tout à l'heure que vous aimeriez donc que votre produit soit un...
Vous pouvez parler plus près du micro, s'il vous plaît.
Vous disiez tout à l'heure que votre produit... Vous voulez que votre produit soit un dispositif médical. Dans quel type de classe c'est un dispositif médical ? De quelle classe, exactement ? Un robot d'assistance ?
Excusez-moi. On va chercher le statut de dispositif médical à 2 niveaux. Le premier, c'est pour les bienfaits physiques. C'est lié donc à la fonction de mobilité à l'intérieur des établissements. C'est sur la cible des personnes qui sont encore en fauteuil roulant et qu'on va faire marcher et qui vont avoir des bénéfices physiques et médicaux. Ils vont faire de la gymnastique dans la vraie vie et n'auront pas besoin d'aller sur le tapis roulant du kiné. Donc ça, c'est le premier volet. Et le deuxième volet, c'est sur la réorganisation du personnel des établissements qui va alléger leur travail, alléger la pénibilité du travail, réduire le nombre d'arrêts maladie, etc., le stress, grâce à une prise en charge, notamment dans la population Alzheimer, beaucoup plus light, parce que le robot pourra s'occuper d'un certain nombre de choses. On base notre demande sur ce premier sujet-là. Pour l'instant, pas encore à domicile.
D'accord, ok.